France Inter.
It's morning edition from NPR News.
MCT's and in the house.
Halia, Radio Rosana Piparis.
Produce gente en la radio.
So far, change de radio.
France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Un jour dans le monde, c'est la drone de guerre en Ukraine.
Дякую службі безпеки.
Le président Volodymyr Zelensky, c'était dimanche dernier, qui remercie toutes les personnes qui ont participé à cette fameuse opération toile d'araignée, qui ajoute cette opération a été préparée pendant plus d'un an et demi. Je peux affirmer avec certitude qu'il s'agissait d'une opération vraiment unique. Bonsoir Isabelle Dufour.
Bonsoir.
Vous êtes directrice des études stratégiques à Eurocrise. L'opération toile d'araignée, donc cette attaque de drones coordonnée sur le territoire russe, loin dans le territoire russe, c'est vrai que c'est une première dans cette guerre. Est-ce que vous aussi, dans ces métiers, vous vous dites que c'est aussi un palier, non seulement dans cette guerre, mais peut-être dans les guerres et leur conduite désormais ou pas?
Alors, dans
je vous
cette...
vois faire la moue.
Oui, parce que votre question appelle plusieurs réponses, en fait. Dans cette guerre, c'est pas un palier, c'est un événement fort qui restera à date, parce que l'opération est spectaculaire, la preuve, on en parle depuis 4 jours.
Ouais.
Et dans les opérations militaires, c'est déjà un palier qui a été franchi depuis quelques années. Et on apprend, en fait, tous les jours, alors les chercheurs, les militaires, les observateurs, etc., ce que ça change aux conflits armés aujourd'hui. Et on n'en a pas encore vraiment cerné toutes les potentialités.
Alors, on va y venir, effectivement, à ce qu'on ne sait pas encore, à ce qu'on invente surtout chaque jour, en fait. Le plus fou, maintenant, quand on y songe, effectivement, 4 jours après, c'est pas tant l'attaque, ni même le moment où elle se produit, c'est ce qu'il faut d'organisation pour y arriver. Ça veut dire qu'il faut aussi du gros renseignement. Est-ce qu'on se dit spontanément que ça ne peut marcher que s'il y a un service de renseignement étranger à la clé derrière? Est-ce que c'est impossible sans cette aide-là? Ou c'est encore plus fort? Parce que non, on n'a pas besoin de ça, en fait. Ils n'ont pas besoin de ça.
Non, je pense pas que les Ukrainiens en aient eu besoin. Ce qui veut pas dire qu'ils en ont pas bénéficié. Ils ont pu bénéficier de renseignements, disons, d'opportunités sur ce qu'il y avait sur les bases, etc. Je ne sais pas exactement ce que leur fournissent les alliés, mais bien sûr, ils leur fournissent du renseignement. Après, aujourd'hui même, là, il y a eu des déclarations aux États-Unis dans les médias américains, comme quoi la Maison-Blanche n'avait pas été avertie de l'attaque. Vu les relations avec Trump, on comprend très bien pourquoi. Et le risque de demander des renseignements trop précis à des alliés, mais chez qui il peut y avoir des fuites aussi sur une opération aussi complexe, bah c'est que l'opération avorte parce que justement elle aura été fuitée ou découverte.
Ce qui est fascinant aussi, c'est qu'il faut bien sûr de la haute technicité, on y viendra, il faut donc du renseignement probablement, puis il faut de l'humain. Mais peut-être que c'est ça aussi, non, l'une des leçons de cette opération, il faut notamment des chauffeurs, il faut des gens qui savent, il faut probablement des gens qui sont en planque. Et j'ai presque envie de dire que c'est presque rassurant de se dire que le facteur humain entre encore en ligne de compte, en fait, qu'on n'en est pas encore à une IA contre une autre IA.
Non, on en est même très très loin, parce que la guerre, ça oppose des volontés politiques, comme on le répète depuis le début de ce conflit, et les IA n'ont pas de volonté propre, à part celle qu'on leur programme ou qu'on leur apprend à apprendre au fil des situations qu'on leur propose. Donc effectivement, l'humain reste au cœur, et spécialement dans ces opérations-là, qui sont plus des opérations spéciales ou de services secrets que des opérations de guerre proprement dites.
Le type de drone pour ce genre d'opération, Isabelle Dufour, on sait bien que l'Ukraine est devenue une espèce de start-up nation convertie à l'effort de guerre, en fait, et on le sait pour le coup depuis le début. Qu'est-ce qu'on sait désormais? Qu'est-ce que cette opération-là nous apprend de leur vraie capacité, non seulement en termes de technologie, mais en termes d'industrie, de fabrication et de progrès surtout qui ont été faits depuis le début de cette guerre? Qu'est-ce que ça nous dit, ça?
Alors, les progrès, ils ont surtout été faits dans les domaines qu'on ne voit pas, c'est-à-dire ce qu'on appelle le C2, le Command and Control, c'est-à-dire la façon dont vous pouvez piloter le drone et voir ce qu'il voit, le situer dans l'espace, etc. Et le jeter, évidemment, in fine, sur une cible. C'est surtout là-dessus. Sur les progrès du drone en lui-même, ce sont des quadcoptères, apparemment, qui n'ont rien
de particulier,
à part les évolutions qu'on connaît depuis ces dernières années. Je voulais juste revenir sur un point. Quand vous parliez de l'humain, vous aviez parlé des chauffeurs, et apparemment, ils n'auraient pas été au courant, en fait, de l'opération.
Oui, absolument. Ouais,
et on leur a juste dit de convoyer le camion d'un point A
absolument.
À un point B.
C'était une espèce de double toit au-dessus qui s'est ouvert à un moment, effectivement.
Et donc même si on inspectait les camions, il n'y aurait rien eu dedans, parce qu'ils convoyaient juste des mobil-homes.
Au passage, d'ailleurs, si les systèmes de brouillage russes n'ont pas été activés, est-ce que c'est parce que ne se sont pas activés? Est-ce que c'est parce que les Ukrainiens désormais ont la clé? Est-ce que c'est ça aussi le progrès? C'est-à-dire qu'on sait désormais contrer ces systèmes de brouillage? Ou est-ce que c'est aussi parce que dans ce genre d'opération, les Russes ont pu pêcher par optimisme, puisqu'on qu'on n'a jamais imaginé la capacité d'aller si loin à l'intérieur du territoire russe. On la connaît, cette réponse, ou là encore, ça fait partie des points d'interrogation ?
Alors, les deux réponses sont valables, sachant que le brouillage, c'est pas 100%, en fait. Vous pouvez jamais brouiller toutes les fréquences d'un coup, ou si vous pouvez, vous faites plus rien, tout simplement, parce que vous êtes dans le brouillard total, et même vos propres communications ne peuvent plus passer. Donc, vous brouillez, en fait, des fréquences, et c'est ce que les Ukrainiens avaient fait sur l'offensive sur Koursk, quand ils avaient investi le territoire russe. Ils avaient réussi à brouiller certaines des fréquences qu'utilisaient les drones russes et à profiter de ce petit créneau qui leur était offert avant que les Russes changent leur fréquence d'utilisation de leurs drones pour pénétrer en territoire russe. Ici, là, difficile à dire parce que ça dépend de la façon dont les différents aérodromes étaient protégés. Et probablement ne l'était-il pas sur des menaces aussi petites, tout simplement. Il y avait des systèmes anti-aériens, bien évidemment, mais qui portaient probablement surtout sur des aéronefs plus gros, c'est-à-dire qui auraient eu la capacité de venir du territoire ukrainien ou à peu près, et de franchir des milliers, voire 5000 kilomètres. Et là, ça suppose des aéronefs plus gros, parce qu'il faut emporter du carburant, tout simplement, pour pouvoir couvrir la distance.
D'un point de vue purement stratégique, au fond, en termes d'hommes, en termes de moyens, cette guerre, elle est asymétrique, on l'a suffisamment dit, en termes de grosseur même de la Russie par rapport à ce qu'est l'Ukraine de l'autre côté. Est-ce que ce qu'on voit là, c'est une forme de maîtrise de l'asymétrie, en fait, une manière de brouiller les classiques de la guerre entre le fort et le faible? Est-ce que ça nous dit ça aussi quand la guerre devient une guerre de drones?
Non, je pense pas, désolée. Mais parce qu'en fait, ce genre d'opération peut se trouver dans toutes les guerres. La Seconde Guerre mondiale en recèle, évidemment. Israël, qui fait plutôt office du fort dans la région vis-à-vis de son adversaire, l'avait fait avec les Pajors, c'était une opération aussi extrêmement astucieuse. Ce ne sont pas des opérations de guerre en tant que telles, ce sont plutôt des opérations de services de renseignement et de services secrets, de services action, si vous voulez, et donc qui sont décorrélées du tempo de la guerre. C'est-à-dire, comme vous le disiez, elles s'inscrivent dans le temps long, un an et demi. On peut les déclencher, par exemple, au moment des négociations, on peut supposer que ce n'est pas anodin qu'ils les aient déclenchées au moment où elles semblent visiblement capotées, sans surprise. Mais malgré tout, l'évolution de la guerre sur le front n'a pas vraiment d'impact sur la conduite de ce type d'opération.
Mais quand on voit ce type d'opération, est-ce qu'on se dit qu'on n'a encore rien vu, en fait, sur les capacités de transport, sur les distances capables que des drones sont capables de parcourir, sur le brouillage, effectivement, des systèmes de défense? Est-ce qu'on se dit, ça, quand on est comme vous, chercheuse, on n'a encore rien vu? Ou pas.
Je pense qu'on a encore de grosses surprises devant nous, et ils ne seront pas en termes seulement de système, mais aussi en termes de concept d'opération. C'est-à-dire que là, les Ukrainiens n'ont rien inventé en termes de système, enfin, à ma connaissance. Peut-être les communications ont-elles été habilement utilisées pour avoir le contrôle des drones jusqu'à la fin, jusqu'à la cible. Mais ce n'est pas une révolution en soi, une révolution technologique. Non, ce qui est révolutionnaire, ou en tout cas très très surprenant, c'est la façon en fait, dont ils ont monté l'opération, d'amener ces drones dans les camions, etc., de déclencher les opérations simultanées, même s'il y en a une qui a visiblement échoué, et donc d'obtenir cet effet de sidération dans les forces russes.
Bonsoir Sylvain Tronchet.
Bonsoir Fabienne.
Le correspondant de France Inter à Moscou, c'est vous. Et quand on parle de sidération, effectivement, c'est exactement le mot de votre côté à vous. Sidération, peut-être même humiliation, même si évidemment les Russes ne le diront jamais en ces termes-là. D'autant qu'il y a une histoire de train juste après, juste avant. Il y a le pont de Crimée juste après. Est-ce que les Russes sont sur les dents au moment où on se parle? Là encore, nous sommes 4 jours après pour essayer d'arrêter de trouver ceux qui ont joué un rôle intermédiaire, en tout cas sur les saboteurs.
Oui, clairement, même si personne n'en fait trop ici, hein, tout le monde se garde bien de trop en parler, la télévision y a consacré 40 secondes, la presse quelques articles, mais bon, mis à part quelques blogueurs militaires sur Telegram, personne n'a vraiment souligné ce fiasco des services de sécurité russes hein, dans cette affaire, lesquels services de sécurité, le FSB, annonce à longueur de temps l'arrestation de présumés saboteurs, dont on se demande parfois d'ailleurs ce qu'ils sabotaient réellement, et puis là, échec total dans l'une des nations, sinon la nation la plus fliquée au monde. Les services ukrainiens ont fait traverser le pays à des camions remplis de drones, et du coup, le lendemain, les services de sécurité effectivement contrôlaient les camions sur l'autoroute entre Novosibirsk et Yakoutsk, provoquant des embouteillages monstres. Il y a eu, comme toujours, des arrestations, des perquisitions, mais on a bien compris que les vrais exécutants, eux, avaient disparu. L'exécutant, ou en tout cas le suspect numéro un, il a un nom, un visage, hein, qu'on retrouve maintenant sur les médias russes. Il s'appelle Artem Artyom Timofeyev, c'est un Ukrainien arrivé en Russie en 2018, naturalisé russe. Il a créé une entreprise de transport à Tcherlabinsk, c'est dans l'Oural, hein, l'an dernier. Il a acheté les camions qui ont servi à l'opération et puis il a mystérieusement disparu il y a quatre jours avant l'opération, sur les réseaux sociaux. Sa femme, qui est tatoueuse, expliquait qu'elle allait faire un long voyage en voiture et demandait comment on pouvait forcer un chat à faire ses besoins. Elle aussi, elle a disparu tout comme le chat. Et puis, suprême humiliation pour les services russes, des médias ont découvert que Artyom Timofeyev cachait à peine sur Internet, sur les réseaux, son soutien à Kiev.
Sylvain Tronchet, l'Ukraine, on a d'ailleurs entendu Volodymyr Zelensky à l'instant, n'a pas évidemment caché cette attaque après. Il a raconté aussi pas mal de choses. C'était donc aussi une attaque très psychologique. Et ça, pour le coup, le côté psychologique, ça a l'air de marcher.
Oui, on l'a entendu au début de l'émission d'ailleurs, lorsqu'il a donné beaucoup de détails, hein, vrais ou non, mais en tout cas beaucoup sur l'opération, Volodymyr Zelensky a bien pris soin de remercier tous ceux qui nous ont aidés en Russie, accréditant donc l'idée d'un réseau de petites mains au service de Kiev. Et quand il dit cela, le président ukrainien, il prend le Kremlin à son propre piège, en quelque sorte. À force de voir des saboteurs partout, le Kremlin développe une forme de paranoïa, le tout alimenté en plus par la multiplication des opérations. Hein. Vous en avez parlé, il y a eu l'explosion de deux ponts ferroviaires sur des trains, dont une a fait 7 morts juste avant, puis l'explosion au pied d'une pile du pont de Crimée, là encore filmée, relayée par les services ukrainiens. La nuit dernière, c'est une usine d'un fabricant de moteurs pour l'armée qui a pris feu à Yaroslav. Alors, on ne sait pas si c'était accidentel, mais en une semaine, c'est la troisième usine travaillant pour la défense qui prend feu en Russie. Et puis aujourd'hui, on apprend que les services ukrainiens ont piraté les serveurs de Tupolev, le constructeur aéronautique, et commencent à diffuser sur Internet des informations sur les salariés. Donc, ça fait beaucoup. Le Kremlin ne commande pas. Vladimir Poutine a parlé tout à l'heure. Il traite tout cela par le mépris. Il accuse Kiev d'être un régime corrompu et terroriste. Et il rappelle, ce qui est vrai, que sur le terrain, c'est son armée qui avance, même si c'est au prix de lourdes pertes.
Juste une dernière question, Sylvain, est-ce qu'on sait s'il y a une purge en cours, parce qu'il y aura forcément des conséquences, est-ce que c'est une représaille, est-ce que c'est repenser la sécurité des installations, repenser le renseignement, enfin j'imagine que ça doit gamberger chez les Russes quand même.
Oui, probablement, mais c'est comme le niveau de stress de la population. Hein. C'est difficile, voire impossible à savoir. Alors on sait, il y a des signes quand même. Le maire de Novosibirsk qui dit que les mesures de sécurité vont être renforcées dans sa ville, parce que la Sibérie, qui se croyait à l'abri finalement, hein, a découvert sa vulnérabilité ce week-end. On se doute bien que les mesures de sécurité, les patrouilles vont être renforcées autour des bases, des usines, des voies ferrées. Il y a pas loin de 2 millions d'hommes dans les forces de sécurité en Russie. C'est énorme. Hein. Mais bon, le pays est immense et puis tout est déjà ultra verrouillé. Quant aux purges, les limogeages, en général, on n'en sait rien ou parfois un peu, mais c'est souvent a posteriori, pas sur le moment que ce genre de changement intervienne.
Merci beaucoup Sylvain Tronchet avec nous depuis Moscou. Isabelle Dufour, ce genre d'attaque, est-ce que ça fait repenser effectivement en termes de stratégie, en termes de défense de certains sites, et comment est-ce que ça remet beaucoup de choses dans le shaker pour les armées respectives d'ailleurs, j'imagine.
Oui, alors pour la Russie, mais aussi pour les autres. Hein, ça fait longtemps que beaucoup de gens alertent sur la vulnérabilité de nos aéronefs. Même en Afghanistan, les pertes qui ont été subies par la coalition, la plupart du temps, c'était au sol, sur des attaques de bases aériennes par des talibans. Donc c'est pas en soi une nouveauté, mais les drones et les petits drones créent une vulnérabilité énorme pour nos aéronefs. Oui. Et en Russie, d'ailleurs, il y a eu des messages qui ont été passés au commandant de base de faire construire des abris pour les avions. Seulement, ils doivent les faire construire à leurs frais, apparemment. Alors, ça discute beaucoup sur les télégrammes des mini-blogueurs russes en ce moment sur le fait que cette mesure sera prise ou pas.
Ce sera la dernière question. Est-ce que cette attaque-là, nous fait prendre conscience de quoi, en fait, de notre retard en la matière? Est-ce qu'on est au contraire dans les clous? Est-ce qu'au contraire, on se dit, oulala, ça, nous, on n'aurait pas su faire, en fait? Où est-ce qu'on en est? Et quand je dis nous, alors allons-y au sens large sur les pays de l'OTAN que nous sommes, mais...
Qu'on ne sache pas faire ce genre d'attaque, je ne sais pas. Si, je pense. Il se trouve que simplement on n'est pas en guerre et on n'a pas à rentrer dans les pays. On ne franchit pas les frontières illégalement, nous. Donc a priori, on ne se pose pas la question comme ça, disons. Après, ce que ça nous fait repenser, c'est notre vulnérabilité. Et elle est grande. Et il y a des choses qui sont faites, mais qui vont pas très vite finalement, parce que les moyens à engager financiers seraient énormes. Et on a déjà du mal à entretenir... Les infrastructures, même s'il y a eu des efforts de fait en France, en tout cas, ces dernières années. Le matériel aussi, il y avait un taux de disponibilité qui était catastrophique, etc. Donc, la remontée du budget, elle a été dirigée d'abord vers ça. Ensuite, changer totalement la façon dont on organise nos bases et combler leurs vulnérabilités, qui sont réelles, qui sont vraiment réelles. Ça, les militaires y pensent, bien sûr, mais il faut un peu de temps pour le mettre en œuvre, puis beaucoup d'argent surtout.
Ouais, comme vous dites, Isabelle Dufour, vous êtes directrice des études stratégiques à Eurocrise. Merci beaucoup. Pour la suite, enlevez vos chaussures d'abord et puis le reste après. Je vous emmène dans les bains publics de Corée du Sud. Pour aller ensemble jusqu'à 19h, il y a Kevin Dufresne sous les radars.
En Autriche, une vraie fausse interview de Clint Eastwood, mais vraie, mais fausse en fait.
Écoutez, Louise Baudet, Le Monde à 18h50. Bonsoir Louise.
Bonsoir, la belle amitié franco-brésilienne qui s'affiche ces jours-ci à Paris. Le couple Lula-Macron, pourquoi ce qui les rassemble est plus important que ce qui les divise.
Le cinéma en VO, c'est Corinne Pellissier. Bonsoir Corinne.
Bonsoir, ce soir le retour de Kiyoshi Kurosawa au cinéma. Le roi du polar japonais avec 3 films à découvrir d'ici au mois de juillet.
Allez, à tout de suite les amis, le tour de la planète commence à peine. Il passe par la playlist de France Inter comme chaque soir avec Obong Jayar, Sweet Danger. Il a passé la première moitié de sa vie au Nigeria, la suite à Londres et ça donne ça. Le reportage ce soir est en Corée du Sud et je vous emmène dans des lieux qui disparaissent doucement, les bains publics, la culture même des bains publics en Corée, des bains chauds où les Coréens viennent se relaxer, qui permet aussi à tous de pouvoir se laver à faible coût, une culture malheureusement donc en voie de disparition, mais que le gouvernement aimerait protéger. Et le reste, c'est Célio Fioretti qui raconte.
L'un des passe-temps les moins connus en Corée du Sud sont les bains publics. Pour l'équivalent de quelques euros, il est possible de se relaxer une journée entière dans une eau bien chaude. Yi Iné nous amène en visite dans l'un de ces bains. Elle a récemment publié un livre qui retrace l'histoire de la culture des bains publics coréens.
Entre les années 40 et les années 80, les douches étaient rares dans les logements coréens. Alors on venait ici, une fois par semaine ou un peu plus, pour faire un grand lavage. C'est à ce moment-là que cette culture s'est vraiment développée avec 200 établissements qui ouvraient par an, même dans les années 2000.
Alors là, on est dans l'entrée. D'abord, on enlève nos chaussures.
Voilà. En entrant, comme dans beaucoup de bâtiments en Corée, il faut d'abord enlever ses chaussures. Ensuite, on se déshabille dans le vestiaire. Et puis, on entre dans l'espace des bains.
Bon, normalement, on est tout nu, hommes et femmes sont séparés dans le bain, évidemment. Exceptionnellement, on va rester ensemble pour la visite, c'est bien ça ?
Oui, pour cette fois, on reste ensemble. Donc avant de se baigner, il faut se laver entièrement le corps et les cheveux aux douches, à côté des bassins. On prend deux petits seaux, l'un pour se laver le visage, l'autre pour s'asperger d'eau.
Voilà, là on est bien lavé avec les bassines. Maintenant on peut aller dans l'eau, on peut entrer dans le bain.
Il y a plusieurs températures. Eau froide, eau tiède, eau chaude, très chaude. On alterne entre l'eau chaude et très chaude pour ramollir les peaux mortes. Et après, le plus important, on frotte. On fait un gommage à l'aide d'une serviette en plastique rugueuse. Comme c'est difficile de frotter son propre dos, bien on demande à son voisin, même si c'est un inconnu. Ce genre de scène où deux inconnus se frottent mutuellement le dos est souvent présenté comme un bel exemple de jong, un esprit de solidarité typiquement coréen.
Alors les bains coréens, c'est justement un endroit social. On y va en famille, entre amis, on y passe du temps ensemble. On peut même y manger, pas dans l'eau évidemment, mais c'est comme un café ou un bar.
Dans les vestiaires ou dans le bain, il y a toutes sortes d'échanges. Les conversations tournent souvent autour de la santé, de l'éducation des enfants, du prix des appartements, des revenus des petits commerçants, voire de politique. C'est un lieu où l'on rencontre tout le monde.
Et pourtant, si les bains ont longtemps fait partie du quotidien des Sud-Coréens, il en existe de moins en moins.
La principale raison de la baisse du nombre de bains publics, c'est que l'eau chaude est désormais facilement accessible chez soi. Plus besoin de se déplacer pour se laver. Et puis le Covid-19 est arrivé. Environ 20% des bains publics ont fermé officiellement après le Covid. Et plus encore ont fermé dans les années qui ont suivi.
Mais les bains restent un outil de santé publique.
En Corée, la couverture en eau et en gaz n'est pas encore totale. Certains n'ont pas accès à l'eau courante. Au-delà des personnes sans domicile, beaucoup vivent dans des logements précaires, ou même s'il y a une salle de bain, eh bien elle est souvent inutilisable. Le gouvernement a conscience de l'intérêt des bains pour l'accès à l'hygiène pour tous. Et c'est pour ça qu'il essaie de préserver ces lieux.
Sur les près de 2000 bains publics à Séoul il y a 10 ans, il en reste aujourd'hui moins de 400. Un patrimoine en danger d'extinction qui tente de trouver son salut, aussi bien chez la jeune génération que les touristes en quête de nouvelles expériences.
Célio Fioretti qui est ressorti tout propre de ce reportage. Merci beaucoup. L'actualité internationale passée sous les radars, c'est Kevin Dufraîche. C'est d'abord au Royaume-Uni que nous sommes, Kevin, avec un téléphone un peu particulier.
Oui, nos confrères de la BBC ont réussi à se procurer un smartphone nord-coréen. Et dans une courte vidéo, ils montrent la dictature en action, finalement. Comment un État contrôle sa population et son accès à l'information. La journaliste commence par préciser qu'évidemment, même si c'est un smartphone, il n'y a pas d'accès à Internet. Puis elle montre comment certains mots sont censurés. L'expression « OPA » par exemple, qui signifie littéralement « grand frère », est remplacé automatiquement lors de l'envoi d'un message par le mot « camarade ». Pourquoi ? Eh bien parce que « oppa », c'est très populaire en Corée du Sud pour désigner son petit ami. Et l'une des obsessions de Pyongyang, on le sait, c'est de couper ses habitants de toute la culture de la Corée du Sud. D'ailleurs, « Corée du Sud » est également automatiquement remplacé par « État fantoche » sur ce même téléphone.
We can see that the phone is taking a screenshot every 5 minutes or so.
Et puis, il y a les captures d'écran. Toutes les 5 minutes, le téléphone en fait une, stockée dans un dossier que le propriétaire du téléphone ne peut pas consulter lui-même. Seules les autorités nord-coréennes à distance peuvent en voir le contenu.
Ça donne envie. Nous voici au Pakistan, où des dizaines de prisonniers sont en cavale.
Depuis la nuit de lundi à mardi, où au total plus de 200 détenus ont réussi à s'évader de la prison Malir de Karachi, la moitié ont été rattrapés, une grande évasion causée par un tremblement de terre. Les autorités locales racontent que vers minuit, une première secousse a créé, je cite, un mouvement de panique dans la prison. Le séisme s'est poursuivi. Scène de chaos dans cet établissement surpeuplé, comme c'est souvent le cas au Pakistan. Les surveillants dépassés, les détenus réussissent à briser les barrières de la prison et à se faire la malle. Un prisonnier a été tué, 12 autres blessés. Le chef de l'administration pénitentiaire dans la région a été limogé.
See you soon, idiots.
It's for you.
Et nous sommes en Autriche, Kevin, où un journal fait face à la colère de Clint Eastwood.
Ah oui, sans doute a-t-il eu envie de les traiter d'idiots, comme ici l'homme sans nom dans Le Bon, la Brute et le Truand, bien sûr. Parce que Courrier, c'est le nom de ce quotidien, s'est attiré les foudres du vétéran du cinéma américain après la publication d'une interview de lui, vendredi dernier, qui s'avère être totalement fausse. Il s'en est rendu compte parce que cet entretien a été repris dans beaucoup de médias américains, notamment une phrase « Faites quelque chose de neuf ou restez chez vous », soi-disant adressée au réalisateur, hein, Clint Eastwood, critiquant dans ce papier une époque faite de remake et de franchise. On connaît le Clint Eastwood grognon, évidemment. Sauf que l'acteur-réalisateur qui vient de fêter ses 95 ans n'a jamais accordé d'interview au Courrier. Par communiqué, il dénonce un entretien entièrement bidon, fermez les guillemets. D'après la direction du journal, c'est en fait une pigiste indépendante qui écrit régulièrement dans ses colonnes qui s'est rendue coupable du méfait. Elle a en fait compilé des interventions de Clint Eastwood dans une vingtaine d'entretiens réalisés ces dernières années. Le Courrier annonce cesser toute collaboration avec cette journaliste, se sentant tout de même légitime de préciser qu'aucune citation n'a été inventée.
Voilà, bravo pour le copier-coller. Merci beaucoup Kevin, vous reviendrez demain, vous partez en passant par les États-Unis avec un trio, Vampire Weekend, Unbelievers sur Inter. Weekend Unbelievers. Vous êtes dans Un jour dans le monde et le monde à 18h50. C'est Louise Baudet.
How dare you?
Fabienne Synthèse. Le 18-20.
Louise, la belle amitié entre la France et le Brésil va s'afficher ces deux prochains jours à Paris, où le président Lula est attendu. Et vous nous expliquez pourquoi la convergence franco-brésilienne est impérative dans un monde fragmenté.
Alors, va-t-on assister, Fabienne, à la saison 2 de la bromance Macron-Lula, deux chefs d'État en bras de chemise, main dans la main, dans la forêt amazonienne? C'était en mars de l'année dernière. Photo de mariage très commentée d'une relation privilégiée. À lire le président brésilien dans les colonnes du Monde hier. Lula voix puissante du Sud global, hyperactif sur le plan diplomatique. Il assure cette année la présidence tournante des BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et quelques autres, soit 40% du PIB mondial et plus de la moitié des habitants de la planète. Les BRICS, dont Lula accueillera le sommet à Rio début juillet. En novembre dernier, il recevait le G20. En novembre prochain, ce sera la COP30, incontournable sur la scène mondiale et de ce fait partenaire à privilégier.
Alors, au-delà des marques d'amitié renouvelées, Louise, y a-t-il une vision commune entre le Brésil et la France ?
Mais en tout cas, leur diagnostic converge sur les tensions géopolitiques à l'œuvre dans un monde fragmenté, monde structuré par la rivalité entre la Chine et l'Amérique trumpiste, menacé par l'hégémonisme et l'unilatéralisme. Paris et Brasilia partagent plus qu'une frontière à travers le territoire de la Guyane. Les deux capitales affichent un attachement commun au multilatéralisme, à la démocratie, au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et au règlement pacifique des conflits, même si ce sont les guerres qui structurent leur agenda commun et qui seront au cœur de leurs discussions ces prochaines heures. Guerre des droits de douane, guerre à Gaza, guerre en Ukraine. Emmanuel Macron espère notamment le soutien de Lula lors de la conférence Palestine co-organisée par la France et l'Arabie Saoudite mi-juin à l'ONU pour redonner de l'élan à une solution politique au conflit israélo-palestinien.
Et justement, Louise, sur ce sujet, sur d'autres aussi d'ailleurs, les deux pays sont très loin d'être alignés.
Oui, très tôt, Lula a qualifié de génocide l'offensive israélienne à Gaza, pendant qu'Emmanuel Macron laisse les historiens en juger. Dans le dossier ukrainien, le président français plaide pour des sanctions contre l'agresseur russe et pour le réarmement de l'Europe, pendant que Lula se rend à Moscou pour convaincre Poutine des vertus du dialogue. Et si les deux dirigeants condamnent de concert la guerre commerciale de Trump, ils divergent sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, inacceptable en l'état pour les filières agricoles françaises et pour Emmanuel Macron, indispensable pour compenser les effets néfastes des droits de douane américains, selon son homologue brésilien.
Et sur le climat, qui est quand même le sujet du moment?
Alors, les deux dirigeants se présentent en champions de la cause climatique et environnementale. Lula accueillera, on l'a dit, la prochaine COP, grand messe de l'ONU sur le climat, dans la ville amazonienne de Belém en novembre, et Emmanuel Macron préside à partir de lundi, vous le savez, la troisième et première vraie conférence mondiale pour l'océan à Nice, en pleine lumière à l'international, critiquée sur le plan intérieur. Lula multiplie certes les mesures de décarbonation, mais il soutient aussi une politique énergétique basée sur l'extraction fossile, notamment de pétrole dans le delta de l'Amazone. Pendant qu'en France, les reculs s'accumulent, de la suppression des zones à faible émission à la réintroduction d'un pesticide néonicotinoïde, en passant par le détricotage du pacte vert européen. Résoudre ces contradictions, défi commun, un de plus pour les dirigeants français et brésiliens.
Louise Baudet, merci beaucoup. Le mercredi, c'est le cinéma en VO et c'est Corinne Pellissier.
Moteur. France Inter.
And Oscar goes to...
Un jour dans le monde.
Je suis Yosuke, un assistant.
40 ans, Corinne, qu'il incarne la nouvelle génération du cinéma japonais, Kiyoshi Kurosawa, le roi du polar. De retour donc au cinéma, avec trois nouveaux longs métrages, dont le film Cloud sur les écrans ce mercredi, où l'on suit les péripéties d'un homme attiré par le chant des sirènes, des sites de revente en ligne. Satire d'une société japonaise hyper connectée, qui laisse déjà présager le pire.
Oui, c'est toujours un observateur très fin de la société japonaise que Kiyoshi Kurosawa a bâti ses histoires, fasciné par les comportements. Le magnétisme ici qu'exercent sur nous les sites de revente en ligne, avec la perspective pour les plus malins d'en tirer quelques juteux bénéfices, comme Ratel, surnom sur les réseaux sociaux d'un personnage ordinaire, un monsieur tout le monde, employé d'une entreprise de blanchisserie, qui aurait pu devenir, sur promotion de son patron, un manager d'une boutique, mais qui a préféré tout plaquer pour monter à la place un petit business de revente en ligne, comme le font aujourd'hui à Tokyo et partout dans le monde de nombreux jeunes hyper connectés, obsédés par l'argent facile, l'idée de mener la grande vie, quitte à baigner, comme notre héros, dans deux, trois combines louches ou criminelles qui vont faire basculer le film de la satire au polar, puis du polar au western façon Tarantino.
Son 主人公が映画の途中から現実から少し離れた、だんだん、うん、進んでいく。で、
それは。Ce que je voulais montrer, ce sont des personnages comme ça, très ordinaires,
qui, tout d'un coup, vont
faire face à l'inattendu et vont être conduits à une sorte de sombre réalité. 殺人というのは恐ろしいものに繋がる。そういうところに主人公、
平凡な主人公が進んでいくためには、commettre peut-être des
crimes.Mais je savais dès le départ que je n'arriverais pas à faire un film à l'américaine. Ce que je voulais exprimer, c'est l'intervalle entre deux actions, entre deux coups de feu. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Je voulais qu'on a un coup de feu, et puis jusqu'au prochain, qu'est-ce que le héros va ressentir ? Comment ses sentiments vont-ils évoluer ? Il y a certes beaucoup de films japonais avec des scènes de fusillade, mais ils sont incomparables avec les films américains de ce genre. Ils sont beaucoup plus ennuyeux, souvent. Ils sont beaucoup moins bien faits que les films américains. Quand j'étais jeune, j'aimais beaucoup voir ce type de film.
Qu'est-ce que c'est?
Et le tout, Corinne est dans un esprit très série B.
Oui, avec des courses-poursuites en voiture, une chasse à l'homme dans la forêt, des fusils, des machettes, des personnages cartoonesques, d'autres très sombres, pour un résultat en effet qui oscille toujours entre la farce et le western. Un côté très série B qui a toujours fasciné le cinéaste, passionné, il l'a dit, de cinéma américain, ultra prolifique, une trentaine de films depuis ses débuts dans les années 80, de l'espionnage jusqu'au film de gangster en passant par le cinéma d'horreur, et qui dresse aujourd'hui dans ce film, Cloud, une analyse très juste des rapports à l'aide numérique. Alors pour les fans de Kurosawa, jusqu'à la mi-juillet, c'est aussi triple dose, avec deux autres sorties sur les écrans. Un pur film d'horreur, Chime, autour d'un professeur et de son élève dans une école de cuisine, déjà au cinéma. Puis La Voix du Serpent, remake franco-japonais de l'un de ses films sortis en 98, avec au casting Mathieu Amalric et Damien Bonnard, au cinéma le 16 juillet.
Voilà, ben, et Cloud, donc on n'a pas oublié, c'est sur les écrans ce mercredi. Corinne Pellissier, merci beaucoup, à la semaine prochaine. Le 18-20, la suite, c'est Journal de 19h avec Hélène Philly, juste après le téléphone. Bonsoir Philippe Lefebvre.
Bonsoir à tous.
Rédacteur en chef du 18-20, Philippe, ce soir on regarde le sexe féminin sous toutes ses coutures.
Et on parle santé des femmes, sexualité et éducation. Laurence, enseignante, j'ai parlé avec des filles et des garçons, parlé des zones de plaisir des filles et de l'attention à ces zones que les garçons doivent prendre en compte. Comment éduquer avant l'adolescence sans choquer ? Caroline, mon fils en 6e, j'ai vu la différence de schéma qu'ils ont eu sur le chapitre de la reproduction sexuelle. Le masculin est très détaillé alors que le féminin est réduit. J'ai dû acheter moi-même, aller imprimer moi-même un schéma. Tina, j'ai une maladie dont les médecins ne savent même pas de quelle spécialité elle relève, gynécologie ou dermatologie. Merci à ma kiné qui a réussi à me rendre une qualité de vie sexuelle également après 40 ans d'errance de diagnostic.
01 45 24 7000 pour dialoguer avec nous, et c'est le même chemin pour vos pouces par WhatsApp.